Il est maintenant pile 19h30 ici à Paris. RFI Soir continue avec les dessous de l'Infox. Bonsoir Sophie Malibaud.
Bonsoir Philippe.
Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'Infox. Faire face aux manipulations de l'information et interférences étrangères, c'est une priorité pour la diplomatie européenne. Le service de l'action extérieure de l'UE publie un document dans lequel les menaces provenant de Russie et de Chine sont évaluées et clairement identifiées. On fait le point dans un instant avec Alexandre Alaphilippe de l'ONG EU Disinfolab. La désinformation fait rage dans le conflit qui affecte l'est de la RDC et parfois les propagateurs d'Infox usurpent l'identité de grands médias. On en parle avec Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI. Il nous dira comment ne pas se faire avoir. Puis Nora Litoussi des Observateurs de France 24 nous rejoindra pour évoquer le négationnisme très en vogue sur le réseau social X. Elle nous montrera comment la mémoire du camp d'extermination d'Auschwitz y est particulièrement malmenée par tout un courant conspirationniste. Mais tout de suite, notre invité. Les manipulations de l'information et les tentatives d'interférence étrangère sont dans le collimateur de la diplomatie européenne. Son service d'action extérieure vient de sortir un troisième rapport qui vise à muscler la riposte contre ce type de menace. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Alexandre Alaphilippe. Bonjour.
Bonjour et merci de nous recevoir.
Alors, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG EU Disinfolab, une organisation belge qui est à l'affût de tout ce qui vient perturber notre environnement informationnel en Europe, mais aussi au-delà. Qu'est-ce que vous retenez principalement de ce rapport élaboré par les services de la Commission européenne ?
Alors, comme vous l'avez rappelé, Sophie, c'est le troisième rapport que le Service européen d'action extérieure publie sur le sujet, et on constate qu'au fur et à mesure des années, ces rapports deviennent de plus en plus techniques et s'intéressent vraiment à ce qu'on appelle l'infrastructure des campagnes de désinformation ou des opérations informationnelles. Qu'est-ce que c'est l'infrastructure ? C'est de comprendre pas seulement quels sont les types de mensonges et de narratifs que des acteurs malveillants ou des États hostiles ciblent vers les populations européennes, mais aussi de comprendre quels sont tous les intermédiaires techniques, les différentes chaînes, les différents comptes, les différentes infrastructures vraiment qui sous-tendent et qui propagent ces messages, et de comprendre comment ces messages vont de sites Internet assez obscurs, qui sont probablement gérés en sous-main par des proches de ces régimes et au fur et à mesure sont repris par des canaux plus officiels pour soutenir un narratif particulier qui soit plus favorable à la Russie ou plus favorable à la Chine, puisque c'est les deux angles qui ont été pris dans ce rapport, mais qui sont évidemment pas des angles exclusifs, hein, puisqu'on sait que des campagnes de désinformation peuvent venir d'autres États que ces deux États-là.
Par ailleurs, il y a des menaces qui sont clairement attribuées. On cite tout l'écosystème russe. On a vu comment aussi les diplomates pouvaient s'en servir. La semaine dernière, donc, il y avait ce forum de sécurité organisé dans le cadre de l'OSCE et la représentation russe a brandi de fausses unes de journaux. On voyait une couverture du journal français, le journal La Croix, complètement falsifiée, avec la publication d'un récit anti-ukrainien qui n'avait donc rien à voir avec l'authentique journal La Croix. Comment est-ce que vous analysez ce type de manœuvre ?
Alors, il y a deux options. Soit c'est de l'incompétence parce qu'on sait que ces unes sont fausses et que c'est facilement vérifiable, soit c'est de la malhonnêteté. Je vous laisse choisir quelle ligne a été prise. Mais il est certain que ces mécaniques de désinformation rentrent de plus en plus dans les doctrines officielles de diplomatie publique des États et que c'est un véritable problème pour la manifestation de la vérité, mais aussi pour la manifestation de la justice et de la loi internationale. Donc il y a une véritable campagne coordonnée, une attaque coordonnée contre les institutions internationales, contre l'État de droit, par ces États qui souhaitent, en manipulant l'information, manipuler la manifestation de la vérité et de la justice.
Le rapport, me semble-t-il, dresse un lien assez étroit entre ce que l'on voit comme menaces attribuées à des entités étatiques ou para-étatiques, et puis tout un écosystème beaucoup plus flou. Qu'est-ce qu'on apprend particulièrement sur ce sujet-là ?
On apprend qu'il y a des propagateurs dont on sait qu'ils sont reliés directement aux États, soit parce qu'ils sont financés directement, comme les télévisions d'État, soit parce qu'à la suite d'investigations, on a pu prouver, UD Infolab et d'autres organisations l'ont fait, à la fois ONG, mais à la fois gouvernement, et de manière publique en utilisant des données publiques, ce qui est important de préciser, comment certains acteurs sont aussi reliés directement à des financements qui du Kremlin ou qui d'agences proches, par exemple, du pouvoir chinois. On a ensuite toute une vague d'autres types de comptes ou d'agents ou de propagateurs, où là, on est dans l'incapacité de montrer qu'il s'agit de gens qui sont coordonnés ensemble. On a des indicateurs qui montrent qu'effectivement, il y a, par exemple, sur X, beaucoup de comptes qui sont créés, qui agissent tous de la même manière, mais on est incapable, au-delà de l'observation de ces comportements qui sont troublants, d'arriver à ce qu'on appelle à une attribution, c'est-à-dire de dire on est certain que, parce qu'on a des éléments qui prouvent que. Donc, il y a une combinaison, on va dire, d'éléments flous qui peuvent poster du contenu en ligne et puis essayer de le faire remonter en manipulant les algorithmes. Et puis, on a ensuite des chaînes plus officielles qui reprennent et qui s'appuient sur soi-disant ces comptes authentiques pour pouvoir justifier des prises de position ou de la propagande à une échelle plus élevée. Donc, on a vraiment une cascade de contenus postés avec plus ou moins de capacité d'attribuer ces contenus à des acteurs précis.
Alors, les manipulations de l'information, les tentatives d'interférence étrangère sur lesquelles la diplomatie européenne communique en ce moment, c'est notamment pour se rendre capable d'anticiper la menace. Est-ce que cela vous semble possible ? Il y a un certain nombre de scrutins à venir encore en Europe. Est-ce que vous pensez que l'Europe est de mieux en mieux outillée contre cette menace ?
Il y a la question de l'anticipation de la menace et je pense qu'il y a maintenant une connaissance assez claire, assez fine, assez précise de l'ampleur de cette menace, de comment elle se déploie et on a ces rapports-là. La deuxième question, qui est une question beaucoup plus importante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ces infractions qui sont potentiellement illégales, quand on parle de financement politique dissimulé, quand on parle de manipulation d'algorithmes, quand on parle de coordination pour changer le déroulement d'un vote, on est dans des comportements qui sont des comportements illégaux. Donc, il faut vraiment déconnecter la question du contenu de la question des pratiques et que la plupart de ces pratiques peuvent parfois tomber sous le coup de la loi. Et la vraie question qu'on doit être en train de se poser, c'est est-ce qu'on souhaite appliquer la loi européenne en Europe ou est-ce qu'on laisse des acteurs abuser et enfreindre la loi au vu et au su de tous ?
Alors, on va revenir sur un cas qui a fait beaucoup de bruit, le cas de la Roumanie, qui est très intéressant, parce que les Roumains ont dû stopper le processus électoral. Ils vont retourner aux urnes le 4 mai prochain, après avoir estimé que ce processus avait été enrayé par une campagne d'ingérence russe. Mais le sujet reste donc polémique. Alors, l'ancien commissaire européen au numérique, Thierry Breton, en a fait les frais. On va écouter précisément ce qu'il disait le 9 janvier dernier. Il s'exprimait sur un plateau de télévision au sujet des élections passées en Roumanie et aussi du scrutin qui allait se tenir en Allemagne. Des propos qui lui ont valu d'être d'ailleurs traité de tyran de l'Europe par Elon Musk.
Attendons ce qui va se passer. Et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et qu'elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne.
Voilà, on l'a fait en Roumanie, il faudra le faire en Allemagne, disait le commissaire Breton. Ces propos ont été détournés de leur contexte ou bien mésinterprétés sur les réseaux sociaux pour donner à penser que l'Union européenne était intervenue dans le processus électoral en Roumanie. Mais en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé.
C'est même pas du tout comme ça que ça s'est passé, puisque c'est les autorités judiciaires roumaines et la Cour constitutionnelle qui ont pris une décision basée sur des éléments dont ils disposaient. Donc la question ici, c'est est-ce qu'on souhaite appliquer la loi qui a été votée ou est-ce qu'on ne souhaite pas appliquer la loi qui a été votée ? Aujourd'hui, il faut se rendre compte que la loi européenne qui a été votée et les lois nationales qui sont différentes dans chaque pays, puisque chaque pays a des lois électorales différentes, et on rappellera que les élections sont de la compétence des États de l'Union européenne et pas de la Commission européenne. Donc, c'est aux États membres de surveiller leurs élections et de vérifier s'il n'y a pas d'infraction. La loi, qu'est-ce qu'elle dit ? La loi sur les services numériques, le DSA, dit qu'on doit pouvoir identifier, par exemple, qui a payé une publicité politique. Il semble que dans beaucoup de cas et d'opérations qui ont été documentées dans plusieurs pays d'Europe, ça n'est pas le cas ou ça n'est pas toujours possible. C'est-à-dire qu'on est en train de laisser potentiellement de l'argent, on ne sait pas d'où on vient, cibler spécifiquement des électeurs. Et ça, c'est illégal dans le cadre de la loi sur les services numériques. Donc, est-ce qu'on souhaite, oui ou non, que ces pratiques-là soient punies ? Est-ce qu'on souhaite retrouver les gens qui ont volontairement enfreint la loi ? Et est-ce qu'on souhaite poursuivre les plateformes qui n'ont pas demandé les informations suffisantes ou qui ne les ont pas mis à disposition du public comme elles sont obligées de le faire ? C'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Si on souhaite ne plus appliquer les lois ou les appliquer à la carte, on n'est plus dans l'état de droit. On est dans des régimes spécifiques qui s'appliquent à certains et pas à d'autres. Donc la vraie question et la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on souhaite appliquer la loi en Europe ? Nous pensons qu'elle doit être appliquée, et elle doit être appliquée basée sur des constatations, des preuves publiques, et que la justice puisse faire son travail de manière publique, sans être remise en cause, parce que c'est son rôle.
Mais il y a un problème, c'est que souvent les offensives informationnelles sont analysées a posteriori. Ça prend un peu de temps de faire l'enquête et d'ailleurs d'avoir un retour de la part des grandes plateformes. Tout ça prend du temps et le calendrier électoral, lui, il a son propre rythme. Donc, on se retrouve dans une situation où le fait d'interdire des candidats, tout ça devient polémique et finalement, l'état de droit est difficile à faire respecter.
Alors, les interdictions de candidature dont vous parlez, elles ont à voir avec des procédures judiciaires en cours. Donc, s'il y a des financements illégaux de campagne électorale ou des financements illégaux de partis politiques, il faut que la loi s'applique quand elle doit s'appliquer. Vous avez raison que les calendriers sont parfois difficiles à tenir, mais quand on constate que les systèmes de protection qui devraient être mis en place, qui devraient empêcher cette non-transparence et qui encouragent cette opacité, par exemple, sur les publicités politiques ou sur la manipulation des algorithmes, on se rend compte que les mécanismes qui devraient empêcher ces faits de se produire ne s'appliquent pas ou ne sont pas appliqués par les plateformes. Donc, il y a une véritable responsabilité ici de comprendre est-ce que tout a été fait pour éviter que ça arrive ? Est-ce que tout a été fait pour éviter que les algorithmes soient manipulés ? Est-ce que tout a été fait pour faire en sorte que dès qu'il y a une publicité politique, on puisse immédiatement l'empêcher d'être visible si on ne sait pas qui l'a payé ? Et aujourd'hui, la réponse est non. En tout cas, il y a des questions qui se posent puisque la Commission européenne a ouvert des investigations à la fois contre TikTok sur la manipulation de l'algorithme, à la fois contre Facebook et X concernant le paiement des comptes vérifiés sur X et le paiement de publicité politique sur Facebook. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les mécanismes de protection qui devraient être mis en place, qui sont des mécanismes de vérification préalable, ne sont pas appliqués et que parce qu'ils ne sont pas appliqués, les élections sont à risque.
Jusqu'où peut-on aller en démocratie ? Suspension de ces grandes plateformes qui n'acceptent pas finalement cette régulation européenne ?
Ça, c'est l'étape ultime. Pour arriver jusque-là, il faudrait montrer qu'elles n'ont absolument aucune envie de coopérer, de respecter la loi.
C'est un peu le cas avec la plateforme X d'Elon Musk, qui d'ailleurs concentre, selon le rapport justement européen, là, concentre 88%, je pense, des cas d'infraction.
C'est toute cette question-là, et la plateforme a choisi de ne pas appliquer de mesures de prévention à l'avance de ces risques-là. Elle se met elle-même en risque d'avoir, à la fin, une interdiction d'opérer en Europe, mais avant ça, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir des amendes qui peuvent arriver à hauteur de 6% du chiffre d'affaires. Il peut y avoir également des suspensions de produits spécifiques. Il peut y avoir des suspensions, par exemple, du fait d'acheter de la publicité, parce qu'on considère qu'il n'y a pas suffisamment de mécanismes de vérification avant que ces publicités soient achetées. Il peut y avoir des suspensions de l'algorithme de recommandation, si on se rend compte que l'algorithme peut être manipulé facilement. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et il y a un éventail très large, à la fois de discussions et à la fois de vérifications, que simplement des mécanismes de prévention sont mis en place. S'il y a un refus d'obtempérer et s'il y a un refus de respecter la loi, ben là, on rentre dans d'autres choses. Si vous conduisez votre voiture à 250 km/h sur l'autoroute tous les jours parce que vous considérez que c'est la vitesse à laquelle vous devriez conduire votre voiture électrique d'une marque qui commence par un T, bah, vous êtes en infraction de la loi. Donc, au bout d'un moment, vous prenez le risque de vous faire confisquer votre voiture et votre permis de conduire.
Par ailleurs, si on reprend le cas de l'Allemagne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait à la fois des campagnes, des offensives informationnelles qui ont été détectées, mais il y avait aussi autre chose qui n'est pas du domaine purement de l'interférence, c'est ce qu'on appelle l'influence, puisque finalement, Elon Musk, sur sa plateforme X, et même en dehors de la plateforme, faisait directement campagne pour le parti de l'extrême droite allemande. Donc, ce sont des facteurs qui se combinent.
C'est des facteurs qui se combinent. Et encore une fois, les définitions juridiques sont différentes. Il n'y a pas d'interdiction de prendre parti pour un parti politique. La question, c'est est-ce qu'il y a une infrastructure, qu'elle soit technique, qu'elle soit financière, qu'elle soit logistique, qui est mise en place pour soutenir une campagne électorale. Et ça, c'est du soutien beaucoup plus que du soutien moral ou personnel. Donc, c'est ça la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a des infrastructures mises à disposition. Donc, mais là, on rentre dans un débat qui est, quel est, et je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, quel est l'état de la régulation en Allemagne concernant et la déclaration de mise à disposition d'infrastructures pour un candidat. Et est-ce que c'est comptabilisé? Comment ça va être comptabilisé? En France, il y a des règles très claires de la commission des comptes de campagne qui indiquent comment toutes ces choses-là doivent être comptabilisées et déclarées financièrement et incluses dans les comptes de campagne. Encore une fois, chaque pays à ces règles, et c'est important de savoir que chaque pays a la capacité d'appliquer ces règles-là et de comprendre quelles sont les règles qui s'appliquent. L'Europe n'a pas compétence sur le déroulement des élections. Elle a compétence pour savoir est-ce que les plateformes numériques ont mis en place des systèmes de prévention efficaces, oui ou non.
On est quand même dans une situation inédite avec cette convergence entre une influence américaine qui rejoint les interférences russes ou chinoises. C'est un véritable rouleau compresseur. Est-ce qu'il vous semble que les électeurs dans les différents pays d'Europe, au-delà de leur gouvernement, hein, est-ce que les citoyens européens sont résilients selon vous?
Oui, il y a une résilience et je pense que le fait qu'on puisse parler de ces sujets-là en longueur, en complexité, comme sur votre antenne, permettent de mieux décortiquer et de sortir de l'immédiateté et de la facilité. Vous avez parlé tout à l'heure des propos de Thierry Breton, mais il y a beaucoup aujourd'hui de désinformation qui vise à simplifier les débats pour prendre des positions très, très manichéennes. C'est des sujets qui sont éminemment complexes. Si des solutions étaient faciles, je pense qu'on les aurait trouvées depuis la nuit des temps, et on sait que ça n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il faut absolument continuer à éduquer et à faire de la complexité. Effectivement, comme vous l'avez dit, on est dans un temps politique dans lequel on ne s'attendait pas à ce que des hauts cadres de l'administration américaine relaient directement des opérations dont on sait qu'elles sont préparées par les services russes. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas voir. On le voit maintenant. Donc, ça appelle surtout à savoir quel type de modèle d'état de droit on a en Europe. Et on voit qu'il y a des attaques très claires pour faire en sorte que la loi ne s'applique pas et que la loi votée ne s'applique pas ou s'applique à la carte. Il va falloir rappeler quels sont les fondamentaux de la justice dans l'état de droit, dans l'Union européenne, puisque ça fait partie de nos acquis et de ce qu'on a développé depuis 250 ans. Ça n'est pas parfait, mais et ça doit être amélioré, mais il faut continuer à l'améliorer.
Est-ce qu'il y a un risque aussi que finalement les autorités de l'Union européenne se laissent influencer par cette approche transactionnelle de l'administration américaine qui d'ailleurs cette semaine vient de déclencher une véritable guerre commerciale?
C'est le risque. C'est le risque de sacrifier nos valeurs et nos principes juridiques sur l'autel de la transaction commerciale.
Quels sont les premiers signaux, selon vous, plutôt positifs ou plutôt alarmants?
Ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on est dans tout le monde est dans l'expectative. Et il est clair qu'en tout cas, du côté de la société civile, ce débat-là n'a même pas lieu d'être. Puisque sans appliquer la loi et sans respecter la loi, on fera face à une compétition complètement biaisée et sans alternative possible. Donc il faut à la fois faire respecter la loi et à la fois développer des initiatives européennes. On sait qu'il y a beaucoup d'espace là pour développer des nouveaux types d'infrastructures européennes, que ce soit sur l'intelligence artificielle en respectant le droit d'auteur, par exemple, ou en développant des nouvelles plateformes ou des algorithmes qui soient plus respectueux du pluralisme politique que ce qu'on a actuellement sur les plateformes. Donc, il y a beaucoup de possibilités. C'est un moment qui redéfinit notre place en tant qu'Européens. Mais je pense que ça n'est pas uniquement aux décideurs de la Commission européenne, mais ça doit être un mouvement qui doit embarquer également les États membres et les pays eux-mêmes, et les citoyens des pays eux-mêmes dans ce mouvement beaucoup plus positif et qui est ancré dans le droit et la justice.
Merci beaucoup Alexandra Lafilippe. Je rappelle que vous êtes donc directeur exécutif de l'ONG EU Disinfo Lab. Cap sur la République démocratique du Congo à présent avec Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI. Bonjour Grégory.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
La situation reste tendue dans l'est du pays, entre d'un côté les rebelles de la FCM23 et de l'autre les forces armées congolaises et leur soutien. Les affrontements se déroulent sur le terrain mais aussi en ligne où la désinformation est omniprésente. Et parmi ce flot d'infox, un phénomène se répand, des infox sous forme de faux journaux de RFI. Ces derniers jours, l'identité de la Radio du Monde a été plusieurs fois usurpée dans le but de désinformer massivement la population.
Oui, si vous suivez la situation en RDC ou que vous êtes membre de groupes congolais sur WhatsApp, vous avez probablement vu passer ce journal audio faussement attribué à RFI. Durant 4 minutes et 44 secondes, on y entend plusieurs voix synthétiques, inauthentiques. La première imite celle de notre journaliste au service Afrique, Arthur Ponchelet.
Dans une annonce surprenante, Corneille Nanga Yobeluo, ancien président de la commission électorale.
S'ensuit celle de Corneille Nanga, le coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo dont fait partie le M23.
Moi, Corneille Nanga Yobeluo, me tient devant vous, accablé par...
L'extrait se conclut enfin avec une imitation de la voix de la correspondante de France 24 en RDC, Aurélie Bazara Kibangula.
Bonjour Arthur, ici c'est la stupéfaction, peu de gens s'attendaient à une telle volte-face.
Mais alors attention, RFI n'a vraiment rien à voir avec ce contenu mensonger.
Oui, cet audio a été entièrement généré via l'intelligence artificielle. Les propos attribués aux trois interlocuteurs ont été fabriqués de toutes pièces. Ce contenu est faux sur la forme, mais aussi sur le fond, puisque contrairement à ce que l'on entend, Corneille Nanga n'a ni annoncé qu'il déposait les armes, ni demandé des excuses ou une grâce présidentielle.
Et donc, sait-on qui est à l'origine de cette fausse information ?
Eh bien non, le fait que l'infox ait d'abord été publié sur WhatsApp rend très difficile l'identification des commanditaires. Ce que l'on sait, c'est que différents comptes se présentant comme des médias en ligne l'ont repartagé sur TikTok, Facebook, YouTube et X. Aujourd'hui, l'infox circule sous différentes formes avec de nouveaux visuels qui usurpent l'identité de RFI.
Et ce n'est d'ailleurs pas le premier faux extrait de RFI qui circule en RDC.
Non, début mars, un audio siglé RFI affirmait que Félix Tshisekedi allait démissionner après un accord historique entre Kinshasa et le M23. Mais là encore, cette infox était générée par intelligence artificielle. Ce type de manipulation se multiplie ces derniers mois et touche différents médias internationaux.
Alors quand on voit ce type de contenu siglé RFI sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, comment savoir si c'est un vrai ou un faux, Grégory ?
Alors le meilleur moyen de s'assurer de l'authenticité d'un contenu attribué à RFI, c'est de consulter tout simplement notre site internet ou nos réseaux sociaux officiels. Si l'audio ou l'article en question n'y figure pas, eh bien c'est un faux. En étant vigilant et observateur, on peut aussi se rendre compte de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Dans le cas de ce faux journal, plusieurs utilisateurs ont pointé le ton robotique et la mauvaise qualité sonore. Mais au moindre doute, le réflexe à adopter, c'est de remonter à la source.
Merci Grégory Genevrier. La désinformation est donc une composante des conflits d'aujourd'hui, mais elle entache également la mémoire et l'histoire des conflits passés. C'est ce que nous allons voir à présent avec notre consoeur de France 24, Nora Litoussi, qui nous ramène sur les traces du génocide perpétré par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale.
Les dessous de l'infox sur RFI.
Bonjour Nora Litoussi.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux observateurs de France 24. Vous avez repéré sur les réseaux sociaux un détournement d'images du camp d'Auschwitz, une manipulation visant à contester la réalité de la Shoah. Ce sont des comptes complotistes et négationnistes qui ont massivement relayé cette infox avec des photos censées prouver qu'une cheminée a été ajoutée sur l'un des bâtiments et vous avez voulu savoir ce qu'il en était réellement.
Alors oui, cette affirmation, selon laquelle une cheminée a été ajoutée à Auschwitz a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, sur X notamment, où un compte complotiste du nom de Red Pill USA a partagé un post comparant deux images du camp d'Auschwitz-Birkenau. Sur la première, légendée Auschwitz 1945, on voit un bâtiment au toit plat. Sur la seconde, intitulée Auschwitz aujourd'hui, le même bâtiment apparaît, avec un détail supplémentaire, une grande cheminée semblant émerger de son toit. Selon l'auteur du poste, cette cheminée, qui n'existait pas à l'époque, aurait été ajoutée récemment. Ce qui, selon les complotistes, laisserait entendre que la Shoah n'a jamais eu lieu et qu'il s'agirait d'un complot inventé de toutes pièces. Mais en réalité, cette cheminée, elle n'a pas été ajoutée, elle a été restaurée.
Alors comment est-ce que vous êtes parvenu à cette conclusion ?
Grâce à la recherche d'images inversées, qui nous a d'abord permis de retrouver d'autres images du même bâtiment et d'identifier qu'il s'agissait précisément du crématoire d'Auschwitz I, également appelé Stammlager, qui veut dire « camp de base » en allemand. Une fois le bâtiment clairement identifié, une simple recherche sur le site officiel du camp permet de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. On y apprend qu'en 1944, les fours et la cheminée ont été démontés par les nazis et les ouvertures du toit utilisées pour l'introduction du Zyklon B, le gaz mortel employé pour l'extermination des personnes emprisonnées dans les camps, ont été bouchées par les nazis eux-mêmes.
Alors est-ce la seule destruction qui a eu lieu sur ce site ?
Et bien loin de là, il faut se rappeler que vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont détruit plusieurs installations du camp, toujours dans le même but, tenter d'effacer les traces de leurs crimes. Il y a d'abord eu le crématoire 1, qui a été transformé en abri anti-aérien, puis les crématoires 2, 3, 4 et 5, qui ont également été dynamités par les nazis juste avant la libération.
Oui, donc tout cela a été parfaitement documenté, et donc, contrairement à ce qui a pu circuler, la cheminée était bien là, à l'origine, mais elle a été détruite, et c'est seulement après la guerre qu'elle a été reconstruite.
Exactement. Dès la fin de la guerre, les autorités polonaises, en charge de la préservation du site, entreprirent des travaux de reconstruction de certaines structures d'Auschwitz en utilisant des éléments d'origine. Cette information, c'est le musée mémorial américain de l'Holocauste qui nous l'apprend. On peut lire sur son site qu'en 1947, deux fours crématoires ont été reconstruits et que la cheminée a été refaite dans le but de préserver la mémoire historique du site.
80 ans après la libération des camps, alors pourquoi de tels infox continuent de circuler ?
Alors effectivement, la diffusion de ce genre d'intox, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Depuis des décennies, des images sorties de leur contexte et des arguments trompeurs sont utilisées pour semer le doute sur la réalité des crimes nazis, en particulier les camps de concentration. Et tout ça, c'est une forme de manipulation qui nourrit le négationnisme, qui cherche à minimiser, voire à nier, l'existence de la Shoah en contestant les preuves historiques et matérielles du génocide.
Merci Nora Litoussi. Un travail publié sur le site des observateurs de France 24, que nous mettrons d'ailleurs en lien sur notre site à nous, rfi.fr. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités, chroniqueurs et chroniqueuses, ainsi qu'à Claude Battista à la réalisation. En attendant de se retrouver la semaine prochaine, vous pouvez consulter l'émission et les chroniques en images sur notre site rfi.fr ou en tapant InfoVérif RFI dans un moteur de recherche. Et tout de suite, on vous retrouve pour la suite de RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Absolument, Sophie Malibaud, merci pour toutes ces indications. Les Dessous de l'Infox sur Radio France Internationale, c'est tous les vendredis à cette même heure. Dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera Afrique Soir dans RFI Soir. Ce sera avec vous, Sylvie Berruet, à la une.
Oui, bonsoir, à la une, la Centrafrique avec une manifestation à Bangui contre un éventuel troisième mandat du président Félix Archange Touadéra aux élections de décembre prochain. Nous parlerons de la République démocratique du Congo avec ses chiffres éloquents, 28 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, selon les projections de l'IPC, le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. On en viendra à la guerre dans l'est du pays. Nous ferons le point sur la situation à Walikale Centre, dans le Nord Kivu, où des pillages ont été signalés et les forces armées congolaises affirment consolider leur présence. Dans l'actualité africaine également, le Mali, après la condamnation à un an de prison ferme hier de l'opposant politique Sédina Touré, 9 militants de l'imam Diko ont été condamnés à un an de prison ferme. Enfin, une nouvelle affaire de violence faite aux femmes qui suscite l'indignation en Guinée. La célèbre chanteuse Djeli Kaba Bintou accuse son ex-mari de l'avoir frappée. Photo à l'appui publiée sur les réseaux sociaux.
Et ce sera donc dans Afrique Soir, tout à l'heure. L'Afrique sur RFI, ensuite ce sera Couleur Tropicale avec Claudie Siard qui recevra l'artiste tchadien Mando qui présente le festival Au Cœur de l'Art qui aura lieu à N'Djamena du 14 au 24 avril prochain.